Et si je dois tout simplement avoir de bonnes manières, parler, me laver, je peux faire ça, mais enlever la saleté sous les ongles.
Mais il n'y a aucun moyen de cacher cet homme! Pourquoi l'ange est venu vers moi? Il y a des centaines, des milliers d'hommes plus importants que moi dans cette fichue ville! Ça ne fait aucun sens! Aucun sens!
Mais peut-être que c'est pas censé faire du sens non plus! Peut-être que c'est ce que Dieu veut? Il a dit, bonne nouvelle!
Bonne nouvelle!
Les grandes joies pour tout le monde, car un sauveur est né cette nuit dans la ville de David! L'ange a dit que nous le reconnaîtrions par un signe particulier. Il a dit que l'enfant serait emmailloté et...
Et couché dans une mangeoire. Une mangeoire. Le Messie dans une mangeoire. Je veux dire, même ma famille pouvait m'offrir mieux que ça. On ne pleut pas sur l'or, mais au moins, j'ai toujours un lit et un toit quand j'étais petit.
J'ai attendu toute ma vie pour la venue du Messie. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est peut-être plus comme moi que je ne l'avais jamais cru possible.
Finalement, c'est pas juste une bonne nouvelle.
C'est la plus grande nouvelle qui soit.
Écoutez, tout le monde!
Voici le passage duquel cette intervention-là est inspirée. Ça vient de Luc. Écoutez bien ce passage. Je vous le lis rapidement. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur avaient dit les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voici ce qu'on a pensé faire ce matin. Les répliques que vous allez avoir à travers les courtes interventions théâtrales représente ce que les êtres humains ont pu vivre. Les êtres humains qui ont reçu ces révélations angéliques, ce sont des anges qui sont apparus et qui venaient annoncer ce qui allait se produire aux bergers, à Joseph, à Marie. Et moi, je vais me concentrer sur ce qu'on a à recevoir de ce que les anges ont dit. Alors, d'une part, on voit la fragilité de l'être humain, puis c'est ça qui m'a frappé. Lorsque j'ai commencé à méditer sur ces passages-là, à les étudier à la lumière des interventions que les jeunes allaient faire, hein, ce qui m'a frappé, c'est à quel point Dieu s'est manifesté à des gens vraiment ordinaires. Parce que les bergers, c'était pas une grande position, c'était pas une profession très, très noble, c'était parfois des brigands, parfois des gens de vie assez simple, qui travaillaient des heures très, très ingrates. Et puis pourtant, Dieu a décidé de se révéler à eux. C'est ce qu'on a voulu illustrer ici. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis je reconnaissais dans ça l'expérience de toute personne qui en vient à saisir l'Évangile. Quand tu saisis pourquoi Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il y a un moment où tu dis, mais pourquoi moi je le comprends? Puis tu commences à partager ça, tu commences à le raconter à des gens autour de toi, puis les gens n'ont pas tous la même réponse à ça. Puis là, tu dis, pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai été touché par ça? Dieu vient vers des gens ordinaires. Mais en fait, le Fils lui-même, Le Fils de Dieu, on va le voir un petit peu plus loin dans les autres passages, vient et prend une forme très ordinaire. Il va naître dans une crèche. Et il y a vraiment un message de Dieu. Puis le contraste est énorme dans le passage parce que c'est un ange qui vient l'annoncer. Ils sont la nuit en train de s'occuper des brebis. Puis c'est comme si l'image que j'avais, excusez-moi, je suis un gars du 21e siècle, c'était quelque chose qui nous descend du ciel, puis tu as des lumières qui allument, vous comprenez? C'est presque la rencontre du troisième type qui se passe. C'est une autre dimension qui vient de s'ouvrir. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a un ange qui apparaît, mais ce n'est pas seulement un ange qui apparaît, c'est qu'il y a la gloire de Dieu qui est présente. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand Dieu apparaît, dans l'Ancien Testament, on appelait ça la Shekinah. C'est la gloire de Dieu. C'est comme si Dieu simplement inonde l'espace, brille par sa présence. Et donc, il y a un ange, mais non seulement cela, ces gens-là sont enveloppés, un peu comme au jour de la Transfiguration. Ils sont enveloppés par la gloire de Dieu. Et lorsque l'ange a terminé de leur parler, il y a une légion d'anges, il y a une chorale. Il y a une chorale d'anges qui commence à louer Dieu, qui commence à célébrer Dieu. Et je voudrais juste souligner trois choses qu'on puisse garder ça de ce court passage-là. Dieu aime les gens ordinaires. Et si ce matin, tu te prépares à fêter les fêtes, tu arrives à Noël, puis tu regardes ta vie, tu sais, puis c'est le temps des bilans un peu, hein, les fins d'année, puis là on dit, je sais pas, je suis pas sûr que ça a été une année extraordinaire, puis je suis pas sûr que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Songe à ça un instant. Les anges sont apparus à des bergers, à un charpentier, à une jeune fille nouvellement mariée, à des gens très ordinaires, puis Jésus est venu naître dans une crèche. Pourtant, Dieu n'a rien d'ordinaire. Dieu est absolument extraordinaire. Dieu est infiniment extraordinaire. Puis les messagers qu'il envoie, ce sont des anges, parce que le message qui est annoncé est glorieux. Et donc, ça dit encore quelque chose sur nous, parce que lorsque tu as saisi l'Évangile, tu deviens porteur d'un message extraordinaire. Tu as quelque chose à annoncer. Tu sais que c'est extraordinaire. Juste lorsque tu dis à quelqu'un, tu sais, Dieu le Fils s'est incarné. Tu sais déjà que tu es à quelque part de pas normal. Tu sais. Mais si vraiment tu as cru, si vraiment tu sais, si vraiment tu as connu, si vraiment tu as expérimenté l'amour de Dieu en Jésus-Christ, tu sais très bien que le message est extraordinaire, que cet être-là est extraordinaire. Cet être-là est merveilleux. C'est Dieu le Fils qui vient parmi les hommes. Et si toi, tu as reçu ce message-là, à quelque part, tu deviens un ange. Le mot « ange », ça veut dire « messager ». C'est ça que ça veut dire pour de vrai. Tu n'es peut-être pas angélique comme la vision que les anges ont eue, mais la dame qui m'a annoncé l'Évangile, alors que j'avais 7 ans, elle me donnait mon petit cours de flûte à bec, puis qui m'a annoncé l'Évangile, a été pour moi un ange. Une messagère de Dieu qui m'a apporté un message extraordinaire, qui allait faire son chemin tranquillement dans mon cœur, puis quelques 10-11 ans plus tard, allait vraiment apporter une révélation angélique dans ma vie, dans mon cœur. Dieu envoie un sauveur, enfin c'est la dernière chose que je veux souligner, pour nous apporter la paix. Ça m'a frappé, la fin du passage dit « paix aux hommes qui l'agréent ». Paix aux hommes qui l'agréent. La paix dans les Écritures, c'est pas juste la paix dans mon cœur, c'est pas juste le calme dans mon cœur. La paix dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, c'est le shalom. Puis dans le Nouveau Testament, le mot revient avec un mot grec qui est là. Et ça représente énormément de choses. Ça représente une paix avec Dieu, une présence de Dieu continuelle dans ta vie. À travers les bons moments, à travers les épreuves, Dieu est là, il est avec toi. Et le message des anges, c'est que cette paix-là, Dieu veut la donner aux hommes qu'il vient approuver. Et comment est-ce que tu sais que tu as été agréé, approuvé de Dieu? C'est si tu as reçu cette révélation-là. Donc aujourd'hui, je peux te dire, si tu es chrétien, si pour toi, Noël, tu n'attends pas une révélation, tu connais déjà ce qui s'est passé avec la naissance du Seigneur. Dieu t'a agréé et t'a fait connaître cette paix-là. Et j'aimerais ça inviter toute personne ici ce matin. Si vous dites, écoute, mon année a été tellement ordinaire, mon vieux, c'est pas ça qui va me recrinquer. Je suis quelqu'un d'ordinaire. Bien, ça attire l'attention de Dieu. Ça attire l'attention de Dieu parce que Dieu aime les gens ordinaires. Ici, il y a plein de gens ordinaires qui portent en eux-mêmes un message extraordinaire. C'est le message d'un être surnaturel qui est venu pour apporter la paix aux hommes. Et cette année, le Noël qu'on va célébrer dans une semaine peut être pour toi le début d'une paix que tu n'as jamais connue. Une paix comme tu n'en as absolument jamais connue et qui va pouvoir venir s'installer dans ton cœur à jamais. À jamais. Parce que cette paix-là ne dépendra plus des circonstances. Elle va dépendre d'une seule chose, le fait que le regard de Dieu t'est favorable et que Dieu est avec toi. Amen. Amen.
Je ne veux pas qu'elle me réentende ça, Seigneur. Mais je suis dépassé. L'enfant est en route et je ne suis pas prêt. Oui, je suis un descendant de le roi David. Mais sérieusement, ça, prendre soin, élever un roi.
Tu sais que je suis un homme droit. Un homme irresponsable. Mais regarde où je nous ai conduits, dans une grange. Dieu, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as prévu le début de notre vie?
J'ai passé toute ma vie à travailler, planifier, économiser. J'essaie de faire de mon mieux en ce moment.
La plupart des hommes ont planifié arriver d'avance pour le recensement. Mais qu'est-ce que je fais, moi?
J'arrive avec ma femme, qui est enceinte.
À quelques heures d'accouchement.
Un voyage de 150 kilomètres.
Je suis incapable de trouver une chambre.
Ce n'est pas le déroulement que j'avais prévu, ou imaginé même, pour arriver d'un enfant dans ce monde. Spécialement pas pour le tien.
Je sais. Je ne suis pas le premier homme que ces plans redirigés par toi. Et je ne serai pas le dernier.
Voilà ce que j'essaie de dire, Dieu. Je ne suis pas le type de père à changer le monde. Il y a tant d'hommes sur cette terre plus courageux que moi. Je sais qui je suis. Tu t'es trompé de personne. Tu sais que j'essaie de dire. Je ne suis pas assez.
Mais si tu vois une étincelle d'espoir dans mon cœur, je prendrai un détour. Un très long détour.
Et je te promets ceci. Même si j'ai l'impression que je ne suis pas assez, je vais te donner tout ce que j'ai.
Tout ce que je peux.
Tout ce que je suis.
Laissez-moi vous lire le passage duquel c'est inspiré. Dans Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 21, voici ce qu'on lit. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il faut connaître le contexte. À l'époque, fiancé, pour ainsi dire, c'était marié. Souvent, un mariage qui n'était pas consommé, d'accord? Et Joseph, c'était un homme honnête. C'était un bon charpentier. Hey, les charpentiers qui sont honnêtes, là, il n'y en a pas toujours partout. Hein? Vous savez comment c'est difficile, le milieu de la construction. Mais il y a des charpentiers qui sont honnêtes. Les hommes droits. Dieu est attentif à ça. Et c'est un homme tout simple, c'est un charpentier, mais c'est un honnête homme. Puis il réalise à un certain moment donné que sa fiancée est enceinte. On a un pépin ici, là. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de lui. On a un sirop de pépin ici. Et donc, ça veut dire qu'il va chercher à la divorcer, littéralement. Et il cherche comment se sortir de cette situation-là sans nécessairement la diffamer, sans nécessairement attirer toute l'attention sur ça. J'ai aucune idée de ce qu'il avait comme plan, je ne sais pas ce qu'il allait faire, mais disons qu'il était mal pris. Et on a encore une fois une intervention angélique. On a un ange qui vient vers un homme ordinaire, mais un honnête homme. Dieu est attiré par les gens qui cherchent à faire le bien avec simplicité. C'est vraiment intéressant. Puis cet ange-là vient, puis il dit, « Attends, Joseph. J'ai un secret à te confier. J'ai besoin que tu sois complice de Dieu. Parce que cet enfant-là ne vient pas d'un autre homme. Il vient de l'Esprit-Saint. C'est une conception surnaturelle. Cet être-là n'est pas entièrement naturel. Ça va être un être humain, hein, mais il a été conçu par l'Esprit-Saint. Et si ce matin, tu es là et tu te dis, « Ah, c'est beau, les mythes chrétiens, de belles mythologies. » Non, c'est plus que ça. On croit vraiment dans une conception surnaturelle de la personne de Dieu parce que si Jésus est vraiment Dieu le Fils, bien, à la limite, c'est pratiquement naturel pour Dieu de venir d'une manière surnaturelle. Est-ce que vraiment Dieu pourrait s'incarner de manière totalement naturelle si c'est Dieu? Pour lui, il n'y avait rien de plus naturel qu'être conçu par l'Esprit-Saint. Rien de plus naturel que ça. Et l'ange est en train de dire à Joseph, « Dieu t'invite à être son complice. Joue le jeu avec nous, prends-la pour épouse. » Ça voulait probablement dire que cela allait affecter sa réputation puisque les gens étaient très attentifs à ces choses-là. Elle était donc enceinte. Il y a probablement des rumeurs qui ont couru que Joseph est allé vers sa fiancée avant d'avoir vraiment complété le mariage. Et ça impliquait probablement cela. Le récit ne nous le dit pas, mais à cause de la culture, on peut déduire ça. Et donc, Dieu invite Joseph à devenir complice de l'œuvre la plus extraordinaire qui est en train de s'accomplir. Le Fils de Dieu qui vient parmi les hommes. Une conception surnaturelle. Et vous savez quoi? Ce qui est intéressant lorsque tu es chrétien, c'est que tu dis, j'aurais aimé être témoin de cette conception surnaturelle. J'aurais aimé être là comme les bergers, puis juste aller parler avec Marie, puis leur demander, nous, on a des anges qui sont venus nous voir. Vous, est-ce que vous avez eu des révélations? Je ne sais pas. Le récit est très limité, mais est-ce qu'ils sont restés avec un apéro pour la soirée, puis se sont mis à se partager tout ça, comment ça s'est passé? Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ils ont fait un gros méchoui, puis on dit, attends un peu, là, parle-moi de ce que les gens t'ont raconté, je vais te raconter la révélation angélique que moi j'ai reçue. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Maintenant, quand tu es chrétien, il y a un moment où il y a une conception surnaturelle qui se produit. Un jour, je n'étais pas chrétien, puis pour certains d'entre nous, ça se fait drastiquement comme moi. Pour d'autres, c'est plus obscur, c'est plus mystérieux. Mais un jour, je n'étais pas chrétien, je savais parce que une messagère de Dieu, un ange, m'avait annoncé l'Évangile quand j'étais tout petit, et je savais que Dieu me poursuivait depuis très longtemps. Et donc, un jour, je n'étais pas chrétien, et un réveillon du jour de l'an, j'ai reçu un cadeau qui m'a complètement bouleversé. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai ça, je l'ai déjà compté dans d'autres messages. Mais à cet instant-là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Il y a une décision qui s'est prise, celle que les gars ont illustrée tantôt dans la pièce. Je me suis offert entièrement à Dieu pour devenir complice de Dieu. Et vous savez quoi? Il y a une conception surnaturelle qui s'est passée. Parce que les gens qui m'ont côtoyé dans les jours qui ont suivi savaient qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à l'intérieur de moi. Je n'ai pas porté un enfant. Mais le Saint-Esprit a enfanté en moi une nouvelle naissance. Je suis devenu un homme nouveau. Amen. Et plusieurs d'entre nous ici dans cette salle ont vécu cela. J'espère que chacun d'entre nous, on pourra dire un jour qu'on l'a vécu. Et le message que les anges apportent à Joseph, c'est un message surprenant. Il dit que ce Fils qui va venir, ce Jésus qui veut simplement dire Dieu avec nous, Dieu qui sauve, sauvera son peuple de ses péchés. Sauvera son peuple de ses péchés. Juste un petit peu d'information sur le contexte géopolitique de l'époque. Israël est sous domination romaine. Et si tu étais allé vers des Juifs à l'époque pour leur dire « Le Messie annoncé dans l'Ancien Testament arrive », ils se seraient attendus à être sauvés de leur condition, sauvés de l'oppresseur, sauvés d'une vie malheureuse, sauvés d'une économie brisée, sauvés de liberté privée. Et pourtant, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il va venir les sauver de leur péché. Voyez-vous, les Écritures nous disent que le plus grand sauvetage que Dieu peut faire, c'est te sauver de toi-même et de ta mauvaise nature. Si Dieu est surnaturel, nous, on est très, très naturel. On est très, très, très naturel. Et le plus grand sauvetage que Dieu peut faire dans ta vie, c'est venir te sauver de tes péchés. Venir te sauver de ce qu'il y a de brisé à l'intérieur de toi qui fait que des fois, tu sais ce qui glorifierait Dieu. Des fois, tu sais le bien à faire au travail. Des fois, tu sais la bonne parole à dire. Des fois, tu sais la bonne décision à prendre. Mais il y a une lutte à l'intérieur qui fait que tu cèdes pour faire la chose mauvaise. C'est cette vieille nature-là qui est là. Et le plus grand sauvetage que Dieu peut donner à un homme, ce n'est pas d'améliorer ses conditions financières, bien que ce soit une grâce. Ce n'est pas d'améliorer sa santé, bien que ce soit une bénédiction. Ce n'est pas de le libérer d'un oppresseur politique, bien que ça aussi ce soit une grâce. Mais c'est d'abord et avant tout de venir amener cette conception surnaturelle à l'intérieur de toi, où l'Esprit-Saint va venir enfanter en toi une nouvelle naissance. Tu vas devenir un être nouveau. Tu vas être sauvé de tes péchés. Amen.
Une entrée en douceur dans ce monde.
Ce n'était une entrée triomphante.
Comme celle de la plupart des rois. Parmi tous les endroits qui nous entourent, tu es né dans une mangeoire.
Pas dans un palais.
Aucun garde pour te protéger.
Tout simplement, dans une ferme. Avec beaucoup de foin.
Que dois-je faire de tous ces visiteurs? Cette nuit silencieuse est devenue bruyante bien vite.
J'imagine que tu aimerais entendre comment toute cette histoire s'est déroulée.
N'est-ce pas? C'était une journée ordinaire.
Aussi ordinaire que l'on peut l'imaginer.
Et un ange est venu me rendre visite. Je sais, j'ai de la difficulté à le croire moi-même.
Puis il m'a parlé des choses que je n'arrivais pas tout à fait à saisir.
Il m'a parlé de toi.
Le Fils du Très-Haut. Puis il m'a parlé d'événements à venir qui me semblaient...
Complètement impossible. Il m'a regardé directement dans les yeux.
Et m'a demandé...
Diras-tu
oui?
Ça l'a été. Le oui le plus terrifiant que j'ai formulé. C'était un oui impossible que seulement Dieu peut rendre possible.
Ce oui va tout changer. J'ai l'étrange pressentiment que ça ne sera pas le celui qui me sera demandé.
Je n'arrive même pas à imaginer le oui qui te sera demandé à toi.
Oh Dieu,
aide-moi
une journée à la fois
à toujours te dire oui. Oui.
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est déjà dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dieu aime les gens ordinaires. Songez à ça, la grâce qui est accordée à cette jeune femme. Je veux dire, le plus probable, là, si on se met dans la culture à l'époque, 15 ans. 15 ans probablement. Les femmes arrivaient à la puberté puis elles étaient considérées prêtes au mariage. C'est une jeune femme. Joseph avait peut-être 19, 20, 22, 23 ans. Très, très jeune pour porter un tel secret. Mais une grâce extraordinaire lui est faite. Et elle reçoit cette grâce-là. Elle accepte cette grâce-là. En fait, c'est celle qui a la réponse spontanée la plus belle. Elle se pose des questions, mais son cœur est disponible. Elle est prête à dire oui. Elle est prête à dire oui. Non seulement à Joseph. Ça, c'est sûr qu'elle était prête à dire oui à Joseph. Mais à quelque chose de plus grand encore. Elle est prête à dire oui. Personnellement, ça m'a pris 11 ans avant d'être prêt à dire oui à Dieu. Entre le moment où j'ai entendu l'Évangile, où j'ai compris intellectuellement l'Évangile, et le moment où j'ai dit oui, ça a pris 11 ans. C'est long, 11 ans. 11 ans d'égarement, je dirais, avec tout ce que ça peut comporter. Marie a eu cette grâce-là et cette sagesse-là de dire oui. J'espère que tu vas dire oui à Dieu cette année. La grâce qui est faite à Marie, c'est d'être un outil entre les mains de Dieu puis de porter en elle-même le Fils de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus n'est pas juste un sage qui vient puis qui nous éclaire, qui nous aide à trouver le sens de la vie, qui nous aide à ordonner notre vie. Et cette conception surnaturelle du Fils de Dieu est fondamentale pour comprendre qu'on a une visite de Dieu. C'est Dieu qui vient parmi les hommes, Dieu le Fils qui s'incarne, qui se fait homme. C'est pourquoi il ne pouvait pas être conçu d'un homme. Il devait être humain, mais ça prenait l'Esprit Saint qui intervienne. Et donc, c'est le Fils de Dieu. Et si tu es ici ce matin, c'est peut-être parce que tu as été invité. Si tu vas à l'église régulièrement, c'est peut-être parce que tu es sensible aux questions spirituelles. C'est peut-être parce que tu te dis qu'il y a des choses qui sont plus importantes que juste comme payer l'hypothèque, payer le loyer, faire l'épicerie, payer des vacances dans le sud, faire du gym pour se tenir en forme. Il y a des questions plus profondes, plus existentielles que ça. Puis tu es ouvert à te dire, mais peut-être que ces réponses-là sont d'un domaine transcendant, quelque chose qui dépasse, qu'on peut juste comprendre avec notre intelligence, qui demande une révélation, des choses plus riches encore que ce qu'on va juste saisir avec la science, mais une science peut-être qui dépasse ce qu'on a appréhender ce qu'on a saisi jusqu'ici. Les Écritures nous disent que Dieu existe et que Dieu a dépassé nos limites, il est venu parmi nous et il s'est incarné, il s'est fait homme. Et Marie a eu cette grâce-là de porter en elle le Fils de Dieu. Les Écritures nous disent, dans ce passage-là, qu'il va régner sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur Israël, et sur tous ceux qui se joindront à Israël. L'Israël de Dieu, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ plus tard, tous ceux ici ce matin, tous ceux partout sur la terre qui vont célébrer dans les prochaines semaines la naissance du Seigneur en ayant cette compréhension que ce n'est pas simplement un homme qui est né il y a plus de 2000 ans, dans une petite ville en Israël, mais que c'est Dieu qui s'est fait homme. À tous ces gens-là, une grâce plus grande encore que celle qui est offerte à Marie ici est offerte. J'ai fait allusion à ça tout à l'heure avec Joseph, avec la conception surnaturelle. Voyez-vous, Marie va porter Jésus en elle. C'est le Fils de Dieu. Puis, il va vivre sa vie, il va apporter son message, les hommes vont le rejeter, il va mourir sur la croix, il va ressusciter d'entre les morts. Et c'est à ce moment-là qu'est rendu possible la plus belle des grâces qui peut être faite à un être humain. Parce que si effectivement Jésus est Dieu, le Fils, le Roi éternel, la grâce nous est offerte maintenant de croire en lui et d'expérimenter la nouvelle naissance. Et les Écritures nous disent que celui qui croit en Jésus reçoit en lui-même l'Esprit de Christ qui vient habiter en lui. C'est plus grand encore que ce qui est offert à Marie, parce que Marie a porté en elle le Fils de Dieu pendant 9 mois. Puis après, il a fallu qu'elle découvre qui était vraiment le Fils de Dieu. Et il a fallu qu'elle comprenne à la croix que c'était ça son destin, mourir sur une croix, ressusciter d'entre les morts, pour après ça pouvoir recevoir son esprit en elle-même. Pas pour 9 mois, mais qui plus jamais allait le quitter. Et donc, si tu es chrétien comme moi, prends le temps de réaliser cette année, alors qu'on se prépare à célébrer Noël, pourquoi les anges étaient fous comme des balais quand ils ont donné cette révélation-là aux bergers? Pourquoi il y avait un party complètement malade dans le ciel? Pourquoi c'était si extraordinaire que ça? C'est parce que toutes les possibilités de l'éternité étaient en train de devenir réelles. C'était en train de se potentialiser avec la naissance de Jésus. Si tu es chrétien comme moi, tu sais qu'un jour, l'Esprit de Christ est venu habiter en toi. Parce que tu as dit oui comme Marie, parce que tu as accepté de croire en Jésus-Christ. Puis à partir de ce moment-là, tu es devenu un complice avec Dieu, comme Joseph. Tu connais quelque chose que des milliers de personnes autour de toi n'ont pas saisi. T'es complice avec Dieu pour porter un message. Et comme les bergers, t'as reçu ce message-là, puis tu dois aller l'annoncer maintenant. J'ai un de mes neveux qui travaillait dans un restaurant dernièrement, puis il nous envoie une photo sur Facebook. Il y a un gars qui est venu au restaurant, c'était Aquaman, l'acteur, qui s'est présenté. Puis là, il nous a mis ça tout de suite. Il était fou, là, il était super excité. Puis je me souviens, il y a quelques années, mon beau-frère Jonathan nous raconte, il dit « Ouais, j'ai vécu une drôle d'expérience cet été. On était dans un resort, tout ça, puis je suis allé comme au spa, puis John Travolta était avec moi. » Ça fait toujours le fun à raconter, tu sais. C'est comme, c'est spécial. Mais imaginez les bergers. Sérieux, John Travolta, c'est correct, là, mais... T'sais. Aquaman. Oui, c'est bon. Mais Jésus! Et si tu as dit oui comme Marie, tu as connu cette grâce-là, plus grande que celle que Marie a vécue à ce moment-là, tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu en toi parce que tu as compris que Jésus était le Fils de Dieu qui venait donner sa vie sur la croix pour nos péchés, afin qu'on soit sauvés de nos péchés. Et à ce moment-là, Dieu a fait de toi son complice. Tu es quelqu'un d'ordinaire comme moi. Mais Dieu a fait de toi son complice. Tu portes en toi-même un secret, un message qui est à partager maintenant pendant les fêtes. Et ce message-là doit être partagé avec la joie des anges qui devaient être fous comme des balais après avoir eu cette révélation-là. Ils sont devenus eux-mêmes des messagers des anges qui apportaient une bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on célèbre ensemble ce matin à travers nos chants. C'est ça qu'on va célébrer dans une semaine ensemble. C'est ça qu'on veut apporter dans nos familles. Et ma prière, vraiment, honnêtement, ma prière, c'est que si tu n'as pas connu ce privilège-là, de recevoir en toi l'Esprit de Dieu, parce que tu n'as pas encore traversé un seul Noël où tu avais vraiment compris qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. Ma prière toute simple, c'est que cette année, ce soit un Noël différent pour toi. Que tu dises oui à Jésus-Christ, que tu saisisses qui est né à Noël. Bonne matinée.